Accent d'Europe, Catherine Roland.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins.
Bonjour à tous, la misère serait moins pénible au soleil. La misère, Charles Aznavour l'a connu enfant et il aura su se hisser jusqu'en haut de l'affiche, emblème de la méritocratie républicaine. Les hommages affluent du monde entier au lendemain de la mort de celui qu'on surnomme le dernier grand de la chanson française. La bohème, je me voyais déjà, la mama, comme ils disent, ou encore mourir d'aimer. Charles Aznavour laisse à 94 ans une œuvre pléthorique et quelques-uns des plus grands standards de la chanson française. De son vrai nom, Chanourt Varinag Aznavourian, né de parents arméniens, il aura toujours gardé un lien avec ses racines. En Arménie, il est d'ailleurs idolâtré. En ligne de Yerevan, on retrouve Constance Léon. Alors Constance, on peut imaginer l'émotion dans la capitale arménienne.
L'heure est au recueillement à Yerevan depuis hier après-midi, à quelques heures à peine de l'annonce du décès. Des restaurants du centre, des haut-parleurs de la place centrale de la République diffusent des chansons de Charles Aznavour partout dans Yerevan. Des familles entières arméniennes et françaises d'Yerevan sont venues déposer des bougies, des fleurs sur la pierre gravée à son nom sur la place Charles Aznavour. Peu de personnes sont francophones dans les rues d'Yerevan, mais la plupart des passants connaissent le nom du chanteur. Elles sont capables de fredonner les paroles de la bohème. Hier, plusieurs personnes sur la place Aznavour que j'ai rencontrées m'ont raconté qu'elles avaient appris le français grâce à ces chansons.
Et les hommages se multiplient aussi sur les réseaux sociaux. En plus du hashtag Aznavour, il y a maintenant un hashtag Aznavourian.
Oui, cette diaspora exilée à l'étranger, hier dans les rues d'Erevan, ses admirateurs arméniens ont souvent évoqué son engagement pour la reconnaissance par les autorités turques du génocide arménien. Ou encore, cette chanson « Pour toi, Arménie », écrite après le tremblement de terre qui ravagea Gyumri, la deuxième ville du pays en 1988. Certains des Arméniens venus se rassembler hier place Charles Aznavour lient l'esprit de résistance de cette chanson à la révolution pacifique arménienne. En avril et mai dernier, des milliers d'Arméniens sont descendus pacifiquement dans les rues d'Erevan jusqu'à la démission de l'ancien Premier ministre Serge Sarkissian. D'autres encore ont cité les paroles de, comme ils disent, où Aznavour dépeignait la vie d'un homme homosexuel, une chanson qui touche particulièrement certains Arméniens dans un pays où les personnes LGBT sont discriminées et voient régulièrement leurs droits bafoués.
L'une des rares chansons interprétées en arménien par Charles Aznavour. Un jour de deuil national est désormais prévu en Arménie et en France. Le monde politique envisage aussi un hommage national.
When you imagine a river, it's basically the same as a tree. The main trunk is the river, but you have the branches, all the tributaries. On the Balkans, the whole river system is under attack.
La campagne Save the Blue Heart qui fait le tour de l'Europe et plus particulièrement des Balkans, portée par la marque Patagonia et de plusieurs ONG, elle dénonce les dangers des constructions de barrages hydroélectriques sur les dernières rivières sauvages du continent. En Bosnie, les populations locales sont les premières touchées et parfois, elles réussissent à s'unir pour lutter contre un projet. C'est le cas à Krosica. Depuis un an, des femmes du village tentent d'empêcher la construction d'un de ces barrages sur leur rivière. Clémentine Métenier est allée à leur rencontre.
Quelques planches de bois, des matelas, une grande table au centre, le tout posé à même la terre. Depuis un an, c'est dans cette cabane qu'une quarantaine de femmes de Krosica se relaient nuit et jour. Elles surveillent le pont, juste en face, un passage obligé pour accéder au chantier situé 9 km plus loin. Construire un barrage ici est illégal, martèle Tahira Thibault, l'une de ses femmes.
Vous voyez ce panneau ? Il dit qu'ici, il s'agit d'une zone protégée. Personne n'est censé pouvoir passer par cette route. Il dit aussi qu'il est interdit dans cette zone d'opérer une action de déforestation ou de construire des bâtiments. Les camions ont également interdiction de passer par cette route. Donc, si vous passez outre, vous commettez un crime. C'est écrit noir sur blanc. En fait, les femmes de Krušica font ce que devrait faire l'État de Bosnie-Herzégovine. La police, selon moi, devrait protéger cette zone. Mais au lieu de cela, elle est venue avec des matraques pour nous frapper, nous les femmes.
La descente de police remonte à un an, mais elle a marqué les esprits par sa violence. Elle a aussi convaincu ces femmes que leur action devait devenir permanente. Amela est là depuis le début. À 34 ans, avec deux enfants et sans emploi, elle n'a pas hésité à s'engager dans cette bataille.
C'est mon cœur qui m'a dit qu'il fallait s'engager. Je suis une battante, c'est mon tempérament. Vous savez, ici, avant la guerre de 1990, il y avait un grand potentiel touristique. Nous pouvions vivre du tourisme avec deux hôtels, mais la guerre les a détruits. Notre seule ressource est l'eau de cette rivière, mais 70% de l'eau potable ne nous appartient pas. Elle est redirigée vers les villes voisines, Zenica et Vitez. Si le barrage est construit, nous allons perdre ces 30% qu'il nous reste. Nous nous sommes donc organisés pour protéger cette eau, mais aussi la faune et la flore qui risquent d'être complètement détruites.
En effet, si Krušica n'est pas une région agricole qui dépend de l'eau, le village et les 10 km à la ronde attendaient une certification de parc naturel pour la diversification de sa faune et sa flore, ce qui aurait aussi attiré les touristes. Mais tout cela, c'était avant le barrage. Les femmes de Krušica se sont fait connaître au-delà des frontières. Une délégation des Balkans de l'ONG WWF est même venue les rencontrer. L'objectif, élaborer des pistes de solidarité pour les accompagner dans leur bataille. Bataille qui concerne des centaines d'autres habitants dans les Balkans. Goran est un des représentants de WWF en Serbie.
Dans les Balkans, les rivières sont globalement surexploitées. Environ 3000 barrages sont en construction actuellement. Certaines rivières restent intouchables, car des gens la protègent, mais elles ne sont jamais à l'abri de la construction d'un petit barrage. Cela demande moins d'investissement, les travaux sont moins importants, mais les dégâts sur l'environnement sont tout aussi graves qu'un gros barrage.
Le combat des femmes du pont dépasse l'engagement environnemental. Illettrées pour la plupart et au chômage, elles s'unissent comme un symbole pour lutter contre les puissants. Vasvia habite en face de la cabane. Elle ne vit que des mûres et des champignons qu'elle ramasse aux alentours.
C'est une véritable révolte que nous menons. Nous voyons des gens riches qui veulent gagner encore plus sur le dos de gens pauvres comme nous. Nous n'avons rien, seulement cette nature que vous voyez. Je mène cette révolte pour protéger notre nature et surtout notre rivière. Vous savez, je ne veux pas laisser un homme, un banquier, qui gagne plus de 38 000 marques par mois, se faire encore plus d'argent avec un barrage ici. Il a déjà plusieurs centrales hydroélectriques dans les environs et il vient ici prendre notre âme. Car la rivière, c'est notre âme. Et je veux protéger toutes les âmes de ce village.
En un an, la cabane de Krušica est devenue un lieu de rencontre, de partage, où les hommes ne sont jamais très loin, ils veillent. Un lieu aussi qui permet de vivre plus joyeusement le quotidien.
Le reportage de Clémentine Métenier à Krušica en Bosnie-Herzégovine. Elle s'appelle Leila Ali Elmi, elle a 30 ans et elle est arrivée comme une comète sur la scène politique suédoise. Jeune députée d'origine somalienne, elle sera la première femme musulmane voilée à siéger en tant qu'élue des Verts. Mais cette élection suscite aussi la polémique en Suède. Anne-Françoise Hiver.
Leila Ali Elmi assure qu'elle n'a jamais pensé qu'elle serait élue. Mais elle voulait donner espoir aux jeunes de son quartier d'Angered, une banlieue défavorisée de Göteborg. Quand elle est allée se coucher le 13 au soir, son élection semblait impossible. Elle n'avait rassemblé que quelques centaines de voix, loin du score nécessaire pour lui permettre de décrocher un siège de député. Le lendemain matin, pourtant, son vote était acquis. En quelques heures, elle était citée dans tous les médias du royaume avec une question: qui est donc cette jeune femme ayant réussi à rentrer au Parlement sur la liste d'un parti pourtant laminé qui n'a décroché que 16 sièges? Très vite, les rumeurs ont circulé. Leïla Ali Elmi serait la candidate des associations somaliennes de Göteborg. Elle a d'ailleurs fait une partie de sa campagne en somalien, parler dans les médias de son pays d'origine, rencontrer le président Mohamed Abdoulaye Mohamed. Le terme « vote clanique » est alors apparu dans le débat. Sur les réseaux sociaux, on l'a présentée comme une extrémiste qui n'aurait à cœur de défendre que les intérêts des siens. Aujourd'hui encore, la jeune femme regrette cette polémique et la fixation sur ses origines et son apparence. Elle est arrivée en Suède à 2 ans avec sa mère et ses frères et sœurs. Elle vit depuis à Angered où elle travaille comme interprète aidant les Somaliens dans leurs démarches administratives. En 2014, elle s'est engagée chez les Verts. Elle était depuis suppléante au conseil d'arrondissement de son quartier. Quand elle a annoncé sa candidature, le club de sport local l'a invitée. Ses dirigeants l'ont interrogée pendant 2 heures sur ses ambitions pour les banlieues. Séduits, ils ont décidé de la soutenir et faire campagne pour elle. Un vote communautaire, Leïla Ali Elmi s'en défend et promet d'être ces 4 prochaines années la voix de la banlieue au Parlement suédois.
Eh bien, n'est-ce pas ? C'est très simple. Vous commencez à 8h jusqu'à midi. Vous avez 1 heure pour le repas.
Voilà, des horaires fixes, hein, un CDI, donc à la place des indemnités et chômage. Et c'est ce que propose depuis 1 an une dizaine d'entreprises à but d'emploi en France. L'association ATD Carmonde s'en est emparée. L'initiative concerne déjà 600 anciens chômeurs de longue durée. Il y en a près de 2,5 millions dans l'Hexagone. Ces emplois sont financés par 2/3 par l'assurance chômage et pour 1/3 par des revenus d'activité commerciale. Des activités qui ne doivent pas rentrer en concurrence avec les entreprises privées du secteur et qui doivent servir à générer du lien social dans le quartier. Frédéric Lebel est allé à la rencontre des membres de l'EBE 13 Avenir, situé dans le sud de Paris.
Depuis quelques mois, un drôle d'engin parcourt les rues du quartier Chevaleret dans le sud de Paris. Un triporteur électrique qui assure des livraisons à 400 clients, du pain, des vêtements à récupérer au pressing, des chaussures chez le cordonnier. Et sur le vélo, Bruno, ex-chômeur de longue durée, est désormais employé à durée indéterminée chez 13 Avenir.
Depuis 3 ans, j'étais au chômage. Sinon, mon parcours, ancien militaire, j'étais chauffeur-livreur, j'ai fait un peu de tout. Voilà, quoi, on s'adapte.
Et donc là, vous êtes parti en vélo, triporteur.
Triporteur, pour faire la tournée conciergerie d'entreprise, voilà. Sur ce...
Bonne livraison.
L'employeur de Bruno, c'est une entreprise à but d'emploi. 13 Avenir n'a pas pour but premier de générer des profits, même si elle s'en accommoderait fort bien, mais plutôt de régénérer ce quartier du 13e arrondissement. Elisa Lewis, sa directrice.
On est par exemple sur un quartier où il y a 13% de chômage, alors qu'on est plutôt à 8% à Paris, 40% de familles monoparentales. Donc voilà, on a finalement une précarité qui est plus forte que sur le reste de Paris. Et en même temps, on est à 2 minutes au cœur d'un quartier d'affaires. Et donc ça avait du sens de réfléchir, y compris en milieu urbain, y compris à Paris, à la manière dont on pouvait atteindre le plein emploi dans des quartiers où... Enfin, il y a de l'activité économique, mais il y a encore des poches de pauvreté où le taux de chômage est très important.
13 Avenir compte déjà 30 employés et 40 sont en liste d'attente. Certains n'ont jamais travaillé, d'autres sont sans emploi depuis 3, 8 ou 10 ans. Les nouveaux salariés intègre la structure. Ici, on ne parle pas de recrutement.
Nous, on part du principe que tout le monde a des compétences, que personne n'est inemployable et que, finalement, à condition de vouloir travailler et d'être en capacité d'adapter les postes de travail, eh bien, tout le monde peut travailler. Donc, on ne sélectionne pas les gens à l'entrée dans l'entreprise. Les personnes qui sont volontaires, de facto, ont leur place au sein de l'entreprise à but d'emploi.
Dans le jardin voisin de la cité du Chevaleret, on s'active. Le terre-plein au pied des immeubles était à l'abandon. Tout fixe, 60 ans, ancien plombier, électricien et bien d'autres choses encore dans le bâtiment, a proposé d'en faire un jardin pour le troisième âge. Auprès de 3 jeunes recrues, il anime tout simplement une formation en apprentissage qui ne dit pas son nom.
Vous savez, quand vous allez dans les membres, je trouve que vous construisez une maison. Hein. Donc je travaillais... pour moi. Je travaillais dans les plus beaux quartiers de Paris, dans les plus belles maisons de Paris, de l'avenue Foch, je travaillais un peu partout. Et puis à un moment donné, ma femme elle a eu deux cancers, ainsi de suite, j'ai commencé à baisser les bras pour m'occuper, ainsi de suite. Puis après, ma fille, j'ai payé les études, elle a réussi sa vie, elle est aux États-Unis, elle a ouvert une entreprise. Qu'est-ce que je fais? Je reste devant la télé, je m'emmerde.
Sur la vaste table en bois qu'il a construite, les élèves manient la ponceuse.
Et là, vous faites une grande table pour que les gens puissent boire un café, manger.
Une grande table de jardin, on va dire une table de roi.
Faire travailler jeunes et moins jeunes, pour les plus vieux, forcément ça crée des liens. Nicolas, qui habite le quartier depuis 25 ans et travaille aujourd'hui à l'EBE, voit bien la différence.
Ça permet aussi de recréer du lien social entre des gens qui ne se parlaient plus, qui avaient peur les uns des autres. Maintenant, les jeunes qui travaillent à 13 Avenir, alors qu'avant ils faisaient un petit peu peur, maintenant quand ils voient une personne âgée, en fait, ils proposent de prendre le sac, ils rendent des petits services. Enfin, ils ont un comportement normal et ça finit par adoucir la vie dans la cité, quoi. Ce qui est quelque chose de très important parce que c'est vrai que c'est un environnement qui peut être difficile, quoi.
Dans la cité voisine, on croise Janine, une retraitée en colère. Les rats sont de sortie dans le jardin.
Il y en a toute une famille en dessous le truc. Et le soir, quand on se réunit là vers 18h, on les voit par 4 ou 5 qui courent là.
Un jardin pour les seniors, c'est une très bonne idée, mais ça ne suffira pas à résoudre tous les problèmes du quartier.
On s'est réunis là tous les soirs, on plante des fleurs, parce que nous, il n'y a que les fleurs qui nous intéressent. Ça nous permet de sortir de notre monotonie, on n'est pas toutes jeunes. Et puis voilà, on raconte des blagues, on rigole. On a même fait un petit repas un jour. On est 6 ou 7, 8, mais c'est tout. Personne ne vient, même on nous jette des pierres des fois de la tour, des sacs, des cuisses de poulet, même une fois on a ramassé. Ça leur plaît pas.
Il y a le jardin, mais il y a aussi la conciergerie mise en place par 13 Avenir. Pour un abonnement allant de 5 à 20 euros, les seniors se voient proposer de nombreux services.
Ah peut-être, ouais, c'est possible, c'est moi. Ah, après, vous avez rappelé, je suis voilà. Sorti.
Janine est aussi cliente de la conciergerie et a pour référent Polo.
Tant qu'il y a besoin de moi, je suis là en fait. Et des coups de fil chaque lundi pour savoir si tout va bien, s'ils n'ont rien besoin. Et ça leur fait super plaisir qu'on prenne soin d'eux, qu'on les appelle surtout. Ils me considèrent un peu plus comme leur petit-fils, quoi.
Là, je l'appelle de temps en temps pour me porter de l'eau, du lait, des choses comme ça. Et voilà, ça c'est positif.
Touchik n'est jamais très loin, lui aussi vient donner un coup de main.
Je vérifie les détecteurs de fumée, parce que personne âgé ne va pas y penser. Les tuyaux de gaz, les anciens. Est-ce que vous voulez que je mette une chaîne de sécurité aujourd'hui, un œil de bœuf? Je leur fais voir qu'il y ait compteur électrique et compteur d'eau, parce qu'ils ne savent pas comment, quand, pour éteindre s'il y a le moindre problème. Donc on a réussi à faire un lien, et justement la conciergerie, 50 personnes inscrites, des seniors, c'est génial.
Toutes ces activités sont ce qu'on appelle des activités de niche, qui ne doivent pas concurrencer le privé. La cyclo-livraison en est une. Elisa Lewis, la directrice, réfléchit aussi à la collecte et à la redistribution des invendus alimentaires. Autant de projets qui pourront peut-être un jour s'émanciper du label EBE pour devenir des entreprises tout court.
Si demain on arrive à structurer des activités qui sont suffisamment solides financièrement pour s'émanciper et sortir de l'entreprise à but d'emploi, c'est tant mieux. Ça contribuera autrement à la création d'emplois, au dynamisme économique du territoire. Et ça a du sens de penser qu'à un moment, ça pourra devenir des entreprises de territoire, mais qui vivront peut-être de leurs propres ailes et qui contribueront néanmoins à la création d'emplois dans le quartier.
Travailler et développer des activités en ultra-local pour devenir un territoire zéro chômeur longue durée, c'est toute l'ambition de ce quartier.
L'objectif de 13 Avenir est effectivement ambitieux. Le plein emploi dans ces deux quartiers du sud de Paris, Chevaleret et Porte d'Ivry, et cela d'ici 5 ans. En France, une cinquantaine de territoires se disent prêts, eux aussi, à tenter l'expérience. Merci de nous avoir écoutés. À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr et puis sur notre page Facebook.